Moi, je regarde beaucoup les élytres de certains coléoptères. Là, les élytres, c'est les petites carapaces qui protègent les ailes. Et souvent, elles sont dentelées, texturées très finement. Et après, le jeu, c'est d'essayer de retrouver à comment refaire ces motifs-là avec nos outils à nous, sur une pièce de bois, par exemple.
Belle réussite, un podcast de L'Ouvre-Boîte. L'Ouvre-Boîte est une coopérative d'activité et d'emploi en Pays de la Loire et Vendée. Dans ce premier épisode, découvrez Robin Guidez de l'atelier Robin des Bois.
Je m'appelle Robin, je suis tourneur-sculpteur sur bois. Donc je travaille le bois essentiellement et dans le but un peu plus précis de faire de la vaisselle et des objets utilitaires, avec des bois qu'on trouve localement chez nous. Je suis basé en Vendée actuellement, et du coup on a le fameux bocage vendéen dans lequel je source la plupart des choses que je travaille derrière. En fait, je me suis destiné au métier de l'environnement dans un premier temps. Je me suis formé à la gestion des espaces naturels et aussi à la sensibilisation. Et il se trouve que j'ai plutôt fait de la sensibilisation avant que de la gestion à proprement parler sur les milieux naturels. Et du coup, j'ai fait beaucoup, j'étais éducateur à l'environnement en fait, pendant plusieurs années, où j'ai fait découvrir le monde vivant qui nous entoure au plus grand nombre. Donc je suis un peu arrivé au bois par la nature et le vivant. Et pas forcément le sens inverse, c'est pas forcément l'arbre qui m'a ramené à tout ça, j'avais déjà cette sensibilité-là. Le bois, c'est quelque chose que j'ai fait sur... j'ai commencé ça comme un loisir en fait, hein, comme beaucoup d'ailleurs. Je me suis mis à travailler le bois chez moi pour faire des meubles, des petites choses que j'avais envie de faire, pour avoir des choses différentes de ce qu'on pouvait trouver en fait aussi ailleurs, puis avec un sens un peu différent. Et alors dans le tournage sur bois, on n'a pas besoin d'une formation pour exercer. J'ai appris tout seul. Et puis après, je suis allé vérifier que j'avais pas pris des trop mauvaises habitudes avec des gens qui savent vraiment ce qu'ils font. Donc je suis allé me former dans le Var, dans une école spécialisée dans le tournage sur bois, l'école Escoulen, où j'ai fait des formations ponctuelles en fait. Des petites formations courtes, mais qui m'ont permis de revoir mes bases, travailler des techniques particulières. Les bois que je travaille sont des bois qu'on appelle souvent des bois de casse, c'est-à-dire que c'est des arbres qui ne sont pas abattus en fait pour que moi j'en fasse quelque chose. Souvent c'est plutôt l'inverse en fait. Ils sont abattus pour une raison X ou Y qui peut être soit une casse, comme le nom l'indique, après un coup de vent ou ce genre de choses. Un arbre qui menace un chemin par exemple, une maison qui est abattue préventivement. Et souvent, en fait, le seul destin, on va dire, de ces arbres-là, la plupart du temps, c'est de finir en bois de chauffage, en bûchette et puis dans une cheminée. Sauf que ça peut très souvent être des arbres qui ont plusieurs centaines d'années. Donc, mon idée était de faire des objets qui aient quand même, même si j'essaye de faire des choses jolies, qui aient quand même une utilité qui permette de valoriser ce bois-là en vraiment des objets qui ont du sens et de l'utilité pour les gens qui vont les avoir chez eux. Mais c'est vrai que ça n'a pas forcément été évident au début parce qu'on a oublié beaucoup de choses sur les bois, autres que le chêne et quelques résineux qu'on utilise pour la construction. Mais le reste des essences, on ne sait pas vraiment quoi en faire aujourd'hui, alors qu'on savait très très bien quoi en faire il y a, on va dire, après-guerre ou avant les grandes guerres en Europe, quoi. Donc il y a une partie de réapprentissage aussi, et c'est aussi dans ma démarche de me refaire prendre conscience aux gens de la richesse de ce côté-là, en tous les cas sur ce matériau-là qu'on a autour de chez nous. Qu'on n'est pas obligé de faire des charpentes en chêne, on peut utiliser du peuplier, il y a plein d'autres choses qui sont possibles, mais tout ça, ça nécessite de rouvrir un peu les yeux sur cette richesse-là et la valeur ajoutée que ça peut avoir. Donc du coup, je sélectionne mes bois pas tant que ça, parce que c'est plutôt eux qui me sélectionnent dans ce que je vais pouvoir faire, parce que comme c'est des bois que j'abats pas pour ça, bah nécessairement, en fait, je fais avec ce que je peux avoir. Donc c'est une démarche un petit peu différente, mais qui est très enrichissante aussi, parce que finalement, c'est une contrainte, mais comme on dit souvent dans le milieu créatif, la contrainte, c'est souvent un moteur de nouveauté et d'innovation. Donc c'est très bien comme ça. Et puis, j'essaye quand même d'avoir un peu d'anticipation sur des bois, on va dire, un peu multi-usages. Typiquement, je pense au frêne, par exemple, qu'on utilise beaucoup chez nous, qui est très présent dans les Pays de la Loire, notamment, et qui convient à pas mal d'usages en vaisselle, en tout cas. Donc du coup, ça, j'essaye toujours d'en avoir un petit peu, voilà. Mais je m'autorise à travailler des choses un peu plus anecdotiques, des poiriers. Et ça, c'est vraiment... finalement, c'est un produit de saison, le bois. Ça m'arrive régulièrement d'avoir des particuliers qui me contactent en me disant « Ah, bah, j'ai cet arbre-là dans le jardin qui est tombé. » En plus, c'était un arbre qu'on aimait bien, donc on n'a pas envie de le mettre dans la cheminée. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose et tout ça? Alors, des fois oui, des fois non. Ça, c'est un peu la loterie après. Mais ça arrive de plus en plus régulièrement. En fait, quand les gens savent qu'il y a des gens autour de chez eux, des artisans autour de chez eux qui sont capables de valoriser ce genre de bois, ils ont tout de suite aussi un réflexe de penser à ça en se disant « Ah, finalement, ma solution n'est pas uniquement du bois de chauffage, en fait. » C'est un peu le par défaut, le bois de chauffage. Et puis au-delà de ça, après, l'autre circuit que j'ai développé, c'est un circuit de sueurs locaux. En fait, on ne fait pas que des planches de 27 mm comme on ferait dans des circuits de commerce de bois classiques. Là, on peut demander dans un même arbre 3 poteaux et 4 planches. Et donc moi, pour mon activité, en tous les cas, c'est très précieux parce que je peux demander exactement les pièces dans les dimensions qu'il me faut. J'ai un atelier qui est chez moi, effectivement, je ramène ça à la maison. Et puis après, je conditionne un petit peu le bois, déjà dans un premier temps, en fonction de ce que je sais que je vais avoir à faire comme pièce. Généralement, je mets de côté les morceaux qui vont me servir à faire du saladier, d'autres qui vont me servir à faire des assiettes, etc. Je sélectionne un petit peu là-dessus. Et puis après, je sélectionne aussi un petit peu à l'esthétique. En fonction de ce que je veux vouloir faire, pour avoir par exemple un ensemble d'assiettes qui soit à peu près homogène en style, ben je peux sélectionner des pièces qui vont avoir une similarité au niveau du grain du bois. Et puis je peux aussi mettre de côté des pièces où il y a des petites choses un peu exceptionnelles, qu'on ne voit pas partout, etc. Histoire d'en faire des projets un peu différents. Donc il y a tout ce travail-là. Une partie qui est séchée, naturellement, donc je la laisse... jusqu'à ce qu'elle soit sèche, et puis je la travaillerai à ce moment-là, donc il faut avoir un petit peu d'espace quand même pour anticiper ça. Et puis nous, les tourneurs, le gros avantage qu'on a, c'est qu'on peut travailler du bois quand il est vert. Donc je peux travailler des pièces qui viennent d'être coupées, c'est pas un souci, c'est juste que généralement elles vont se déformer un petit peu dans le temps, mais on est un peu facétieux dans le monde du tournage, parce qu'on aime bien jouer avec les défauts du bois, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les domaines de travail du bois, hein, en menuiserie, tout ça, on est un peu plus exigeant sur le fait qu'il n'y ait pas de nœuds, de choses comme ça, parce que ça peut créer des problèmes après dans les pièces qu'on fait. Nous, en tournage, on aime bien souvent valoriser ces petits défauts-là et les petites particularités du bois. Donc, je m'adapte aussi, en fait, une fois que je suis en train de travailler une pièce, des fois, il faut que c'est à moi de m'adapter au morceau de bois. Enfin, ce que je dis souvent, hein, c'est que c'est un travail collectif. Avec la matière. Moi, je fais 50% du boulot, lui, il fait les 50% autres. Et l'idée, c'est d'arriver à bien s'entendre pour qu'à la fin, on ait un résultat qui soit en un seul morceau, si possible. Ça, c'est le mieux. J'aime beaucoup regarder des choses de céramique, notamment, par exemple. Céramique coréenne ou des choses comme ça, des styles un peu particuliers, comme ça. Alors, je refais pas systématiquement les mêmes choses, mais en tous les cas, tout ça, c'est un espèce de bouillon un peu de culture qui m'inspire beaucoup, les formes dans la nature aussi, vu que j'ai ce regard-là un peu qui est resté avec mon passé naturaliste, la forme d'un champignon par exemple, ça m'inspire pour un saladier ou un bol, quoi. C'est voilà, des petites choses comme ça qui demandent juste d'être disponible mentalement pour les voir, en fait. Donc c'est un peu la balance entre arriver à jongler entre la charge de travail et se dire non, mais il faut aussi garder un peu de recul pour être encore en capacité de percevoir ces choses-là, quoi. Mon but, en fait, c'est un peu le plan machiavélique de l'atelier Robin des Bois, mais c'est d'arriver à convaincre les gens de regarder un peu différemment ce qu'ils vont voir quand ils vont se balader, une fois qu'on aura pu échanger sur un marché ou sur une démonstration, ou quelque chose comme ça, parce que je veux pas juste être un créateur vendeur de produits. C'est pas ce qui me motive, en fait, dans la création de cette activité-là. Donc l'idée, c'est de pouvoir proposer effectivement de l'atelier, de l'initiation au travail du bois, pas forcément que au tournage, dans le sens où on peut déjà faire plein de choses avec un petit couteau et un morceau de bois, hein. Moi, j'ai commencé comme ça, et ça a une réelle valeur aussi pour apprécier derrière à la fois le milieu naturel et le monde qui nous entoure, et aussi en fait les autres choses qu'on verra de créateurs sur d'autres endroits, en fait, de remettre aussi dans le cœur des gens la valeur du travail artisanal. Mes créations, elles sont, on peut les retrouver la plupart du temps effectivement sur les marchés. Je travaille beaucoup en commande directe aussi, c'est-à-dire que j'ai des gens qui me demandent parce qu'ils ont vu mon travail souvent sur un marché la plupart du temps, et puis en fait sur le marché j'ai pas forcément, vu que c'est des produits saisonniers, j'ai pas forcément toujours tout en stock forcément, et du coup les gens me disent ah bah j'aurais besoin de tel ou tel ustensile, est-ce que ce serait faisable et tout ça, et puis ça génère généralement une commande par exemple un peu plus spécifique. Moi des fois c'est des choses auxquelles j'ai pas du tout pensé, donc c'est assez drôle aussi parce que ça me permet de développer d'autres idées auxquelles j'aurais pas du tout forcément pensé avant. C'est comme ça que sont nés les kits pour enfants par exemple. J'ai fait des commandes de plats à couscous aussi dernièrement, donc c'est des choses où oui, sur le papier j'avais pas forcément identifié ça comme un besoin très répandu, mais au final c'est les gens qui viennent vers moi pour me demander des choses qu'eux ont besoin, donc je trouve ça très bien aussi, ça donne encore plus de sens aux objets parce que c'est eux qui les choisissent dans un sens. Le plus compliqué dans mon activité aujourd'hui, c'est clairement de pouvoir répondre à la demande avec mes deux petits bras, parce que c'est un travail qui reste un travail manuel, et du coup j'ai des temps de production qui sont assez importants, sur lesquels je peux pas vraiment rogner si je veux être en capacité de proposer des choses en nombre et diversifiées. Du coup, bah, tout ce qui va être annexe, ça peut être perçu comme une contrainte. Faire de la communication, développer un réseau, etc. Alors qu'on se rend bien compte à long terme, hein, que c'est pas une... C'est plutôt... on gagne beaucoup de temps à l'avoir fait. En tous les cas, on en perd beaucoup moins. Mais du coup, on a tendance à vouloir mettre ces choses-là un petit peu de côté pour avoir plus de temps d'atelier. Il se trouve que depuis 5 ans maintenant, moi je suis impliqué dans un projet coopératif aussi sur le plan personnel d'un supermarché coopératif aux Herbiers en Vendée. Et du coup, je voulais essayer de retrouver aussi ce côté coopératif dans mon activité professionnelle, d'autant plus que j'ai une activité de créateur, donc ça veut dire être tout seul dans son atelier la plupart des jours de la semaine. Donc le côté coopératif a aussi une énorme valeur vis-à-vis de ça, c'est que ça permet de croiser des collègues, de discuter de sujets avec lesquels on peut avoir des difficultés aussi, et de trouver des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé tout seul, etc. Donc je voulais vraiment essayer de retrouver ça dans mon milieu professionnel, donc c'est pour ça que je me suis rapproché de l'ouvre-boîte. Et puis l'autre raison, c'est aussi que tout le volet réglementaire et administratif m'effrayait au plus haut point. Et le fait de savoir que je pouvais être accompagné là-dessus pour me former et pour apprendre aussi par moi-même à me débrouiller, mais en ayant un peu ce filet de sécurité que sont les chargés d'accompagnement et l'équipe de compta à l'ouvre-boîte, ça enlève un poids mental qui est d'autant plus dans un processus créatif très précieux en fait. Donc j'ai pu me lancer un peu avec des idées brutes dans ma production. Donc ça c'était extrêmement précieux. Ce dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est d'avoir essayé. Je sais pas du tout ce que l'avenir me réserve vis-à-vis de mon activité, et on verra bien, hein. J'en suis le moteur, donc ce sera aussi défini par ce que je ferai. Mais je pense que si j'avais pas croisé la route de l'ouvre-boîte, je n'aurais probablement pas essayé, à cause des peurs et des contraintes dont je pouvais parler tout à l'heure. Et du coup, le fait simplement d'avoir pu avoir cet espace d'essai et de création, je trouve ça extrêmement riche. Je ne peux qu'encourager qui que ce soit qui ait le temps, parce que c'est surtout ça, je pense, la clé aujourd'hui, mais c'est que dès qu'on a cette petite fenêtre de disponibilité dans sa vie, de pouvoir essayer de faire quelque chose qu'on a vraiment envie de faire depuis très longtemps, je pense que ça n'a pas vraiment de prix, quoi qu'il se passe derrière tout ça. Donc ouais, je pense que la fierté principale, c'est ça, c'est d'avoir essayé.
Merci. beaucoup à Robin de l'atelier Robin des Bois. Vous pouvez retrouver ses créations sur son site internet www.atelierrobindesbois.fr et sur les réseaux sociaux dans la description de cet épisode. Belle Réussite est un podcast réalisé par Sophie Border et la musique est composée par Nord Groove. L'Ouvre-Boîte est une coopérative d'activités et d'emplois en Pays de la Loire et Vendée. Elle offre à toute personne porteuse de projet un accompagnement et un statut sécurisant pour développer son activité, à la fois entrepreneur autonome et salarié d'une entreprise. Vous voulez en savoir plus? Retrouvez-nous sur notre site internet www.ouvre-boîte44.coop.